C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
OK, on va parler d'obligation vaccinale parce que vous le savez, à partir de vendredi dans le domaine de la santé, les gens qui travaillent dans le domaine de la santé devront présenter une preuve vaccinale ou alors ils seront suspendus sans solde. L'ordre professionnel des infirmières, celui des inhalothérapeutes, pardon, et le Collège des médecins vont même suspendre les permis de pratique de leurs membres non vaccinés à partir du 15 octobre. Mais il va assurément avoir des recours, des contestations devant les tribunaux. Il y a la FIC, le grand syndicat des infirmières notamment, là, qui s'est engagé à contester devant les tribunaux toute décision des ordres professionnels qui pourrait porter un préjudice démesuré à ses membres. On parle de tout ça avec Maître Sophie Mongeon. Elle est avocate en droit du travail. Maître Mongeon, bonjour.
Bonjour, bel après-midi.
Vous aussi, dites-moi, un travailleur, une travailleuse qui serait suspendue parce que cette personne-là a décidé de ne pas être vaccinée, est-ce qu'il y a de la jurisprudence devant les tribunaux qui donne à penser que cette personne-là pourrait être réintégrée?
Actuellement, le seul jugement là, qui fait office de jurisprudence pour l'instant, c'est un jugement qui a été rendu en avril 2008. À cette époque-là, il y avait eu une épidémie d'influenza qui s'était déclarée et un syndicat avait... Il y avait des gens qui avaient été exclus du travail, donc sans salaire, et il y avait un recours qui avait été fait. Donc, la sentence arbitrale est venue dire que l'employeur avait raison et à ce moment-là, n'avait pas permis la rémunération des gens qui avaient été retirés de leur milieu de travail. Donc, ça, c'est le seul document juridique qu'on a pour l'instant qui pourrait nous donner une idée de ce que les tribunaux, comment ils vont trancher. Là.
Donc, ce que vous me dites, c'est qu'on a un élément, une décision d'un tribunal il y a 13 ans qui a statué sur de la vaccination obligatoire et c'est tout.
C'est tout. Sinon, il n'y en a pas eu d'autres comme tel qui s'est rendu jusqu'au tribunal auquel on a une décision vraiment écrite.
Okay.
On sait qu'il y a un certain Desrochers qui a tenté, lui, de contester le décret portant sur le couvre-feu. Mm-hmm. Et lui a été débouté. Là. Fait que ça, c'est un autre jugement pour l'instant qui n'est pas vraiment positif là, pour les travailleurs qui voudraient contester soit le décret ou les décisions qui peuvent être prises par leur employeur.
OK. Maître Mongeon, depuis 18 mois, là, et pas juste au Québec, ailleurs au Canada, ailleurs en Occident, les tribunaux ont généralement suivi le politique en matière de maintien de tous ces décrets-là, de toutes ces lois, de ces règlements-là, qu'on peut qualifier de liberticide, mais qui était, là, disons, qui était exigé par l'époque. Dans les tribunaux du travail, est-ce qu'on est devant la même compréhension des juges?
Bien là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a plusieurs volets aux contestations. Premièrement, il y a le décret comme tel au départ qui, lui, peut être contesté. On sait que c'est ce que Maître Manol, elle, fait comme tel. Il y a une autre contestation qui doit être entendue le 27 octobre qui est déposée par Maître Hans Mercier. Lui, il a fait une demande d'ordonnance de sauvegarde en ce qui concerne le passeport vaccinal. Mmh. Donc, lui, il conteste le décret au départ. Donc, les contestations sur le décret sont entendues en urgence et selon moi, d'ici la fin octobre, on devrait avoir des décisions. Si le décret y est suspendu, ben à ce moment-là, je pense que les travailleurs ont des chances raisonnables de pouvoir contester leur suspension. Mais si le décret reste valide comme tel, si on applique la décision que je viens de vous demander, je viens de vous exposer d'avril 2008, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre.
Si le gouvernement imposait la vaccination pour tous les travailleurs au Québec, est-ce que ça aurait une chance de survivre aux tests des tribunaux, d'après vous?
Non, selon moi, non, parce que ça dépasse les bornes. Là. Effectivement, actuellement, on a quand même deux décisions qui ne sont pas rendues devant le tribunal du travail, mais qui sont quand même intéressantes. Il y a un jury qui a été accepté sans être vacciné parce que le juge est venu dire « Moi, j'ai pas de base légale pour justifier qu'il doit être obligatoirement vacciné, étant donné que les juges, les greffiers et les autres membres au palais de justice, c'est pas obligatoire et c'est pas obligé d'être vacciné pour rentrer au palais de justice. » Fait que si je pense qu'on l'applique à d'autres sauces que le domaine de la santé, je pense qu'à ce moment-là, ça devient plus une exigence professionnelle justifiée. Parce que la charte a dit qu'on a des droits, mais quand c'est justifié par rapport à notre profession, c'est à ce moment-là, les droits collectifs prennent le dessus sur les droits individuels.
OK, on parle de droits individuels et de droits collectifs, Maître Mongeon. En santé, les syndicats l'ont déjà dit, la FIC, par exemple, là, c'est les griefs sont déjà écrits. D'après vous, ils vont contester les syndicats sur la base de quoi?
Bien, ils vont contester que, en principe, il y a d'autres moyens qui peuvent être pris. Donc, les moyens de base, la distanciation, le masque, et aussi, même dans le décret là, actuellement là, qui impose la vaccination obligatoire, il y a quand même deux petites exceptions auxquelles on ne fait pas référence souvent. Moi, je suis une juriste, je lis le décret, je lis la loi. Puis, il est prévu que tu peux être accommodé, mais selon la discrétion de l'employeur. Et si tu as une justification médicale, tu es considéré valablement protégé. Donc, la règle de base, elle est là, mais il y a quand même deux petites exceptions qui permettraient quand même à des travailleurs de la santé de dire, écoute, moi, je peux pas, mais je pourrais être replacé ailleurs. Sauf que dans le décret, si on lit un petit peu plus loin, ça va être indiqué que si tu fais honneur à ta profession, là, si tu poses un acte dérogatoire, tu n'as même pas le droit de faire de la télé-science. Ça, je trouve qu'on y va un peu trop loin. Là.
OK. Pensez-vous que le gouvernement fédéral va un peu trop loin en exigeant que tous ses travailleurs, même ceux qui sont en télétravail, soient vaccinés?
Je pense que oui. Je pense que ça dépasse les bornes. Ça va au-delà de ce qui est nécessaire. Puis, je pense que ça passera pas les tests des tribunaux sur cette partie-là pour tous les employés. Je pense qu'il y a quand même un moyen de faire un bémol. Mais j'ai goût de vous répondre que les employeurs fédéraux sont pas mal mieux encadrés que les employeurs provinciaux. Pourquoi? Parce que là, les employeurs fédéraux, ils ont une ligne de conduite qui est claire. Tandis que nous, les employeurs provinciaux, ben, on les laisse un peu à leur discrétion. Oui, dans le domaine de la santé, c'est obligatoire, mais tous les autres domaines, là, ça devient un petit peu plus difficile pour l'employeur de prendre des décisions. Là.
Vous n'êtes pas la première personne à me dire ça. Je connais plusieurs entrepreneurs, des administrateurs de sociétés au Québec qui m'ont dit, écoute, on le sait pas. On écoute ce que le politique dit. Une journée, on pense qu'on a le droit de demander le passeport vaccinal. Le lendemain, on pense qu'on n'a pas le droit. D'après vous, là, c'est quoi l'état actuel des choses?
L'état actuel des choses, si j'ai le goût de vous répondre, on va se donner encore une petite semaine pour voir comment ça va s'appliquer en vendredi, comment ça va se passer lundi. Puis si l'ordonnance de sauvegarde du décret n'est pas acceptée, là, parce qu'en principe, on aurait une quinzaine de jours. À partir là, de la demande, c'est 15 jours de la signification qu'on peut être entendu en priorité. Fait que moi, je pense qu'avant de me lancer là à vous dire, je suis pas Nostradamus, là, qu'est-ce qui va arriver, je pense qu'on serait peut-être mieux d'attendre de voir qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine à ce niveau-là. Là.
Ça va être bien intéressant. Merci beaucoup, Maître Bonjour, de nous avoir parlé aujourd'hui.
Merci, bon après-midi.
Patrick Lagacé en accéléré.
Vous connaissez le mot « troll », ce sont des gens qui sont sur Internet et qui s'amusent des fois à faire dérailler des conversations, à insulter les gens, souvent sous de faux profils. Et ça prend une tournure, disons, pas mal plus maléfique quand les gens se créent de faux comptes pour non pas seulement insulter, mais insulter et diffamer. Une chose de dire que quelqu'un est un imbécile, c'est une autre chose de dire que cette personne-là est corrompue. Ben, l'avocat Rino Soucy, spécialisé en droit municipal associé au cabinet DHC Avocat, a développé, disons, une bien curieuse spécialité qui est un signe des temps. On va en parler immédiatement avec lui. Maître Soucy, bonjour.
Bonjour, Monsieur Lagacé.
Donc, vous vous spécialisez dans la traque de ces faux profils qui diffament des élus. Dites-nous, dites aux gens qui nous écoutent comment vous êtes tombé dans cette talle-là.
Bien, évidemment, d'abord, Monsieur Lagacé, moi, je suis spécialisé en droit municipal depuis plus de 24 ans maintenant, hein, environ 24 ans. Et j'ai développé une expertise, évidemment, dans ce domaine-là où je représente des villes et des municipalités avec mon cabinet, hein, à travers la province. Et, bon, les gens nous consultent évidemment en droit municipal pour différentes problématiques. Et à un moment donné, le premier dossier qui nous est arrivé avec ce sujet-là, c'est celui de Calgary, en Outaouais, où deux élus là se faisaient, dans le fond, diffamer et on alléguait qu'ils avaient donné des pots de vin, par exemple.
Okay.
Dans le cadre de leur fonction. Et c'est là qu'on s'est mis au cabinet, là, moi et des gens qui travaillent avec moi, dont Maître Anthony Frédji, qui m'a beaucoup aidé dans ces dossiers-là, on s'est mis à s'intéresser à ce type de choses.
Mais Maître Soucy, là, l'article dans le Journal de Montréal disait tout. Là, un avocat s'est transformé en chasseur de cybertrolls. C'est une chose que de pas être content d'être diffamé sur Internet, sur Facebook. C'en est une autre de découvrir qui se cache véritablement derrière un faux compte. Comment vous faites ça à votre cabinet?
Bien, ce qu'on a fait, là, d'abord, on a fait les vérifications utiles au niveau de la jurisprudence et tout, et on s'est rendu compte qu'on pouvait utiliser un recours, c'est une injonction, dans le fond, dont le fondement juridique est qui est anglais, provient de l'Angleterre. On l'appelle l'injonction Norwich, et on travaille avec une firme spécialisée en matière informatique, la firme Circo de Montréal, et on a été en mesure d'obtenir des ordonnances contre Facebook, M. Lagacé, pour obtenir en fait les adresses IP dans un premier temps des personnes qui se créaient de faux comptes Facebook. Et ça, c'est la première étape qu'on doit franchir dans ce type de recours-là, c'est-à-dire obtenir les informations de Facebook. Et quand on reçoit ces informations de Facebook, ça nous donne les adresses IP, là. Mmh. De ces personnes-là. Et dans un deuxième temps, parce que c'est pas si simple, il faut s'adresser ensuite aux fournisseurs publics, que ce soit Vidéotron, que ce soit Bell, etc., pour aller identifier ensuite, là, évidemment, se rendre clairement jusqu'au domicile de la personne. Alors, c'est ce que ça nous a permis de faire.
Donc, moi, je savais, Maître Soucy, que les policiers pouvaient faire ça. Mais je pensais pas qu'au civil, c'était aussi, puis je vais le mettre entre guillemets, là, aussi simple.
Non, c'est pas aussi simple. C'est un petit peu, si vous me permettez l'expression, un chemin de croix, parce que notre expérience démontre là, qu'il faut toujours obtenir au moins deux injonctions. Hein, d'abord contre Facebook, et ensuite contre les fournisseurs publics. Mais je peux vous dire que ça marche. Et le message que je lance, moi j'en profite pour lancer un message à tous les candidats et aux élus municipaux à travers le Québec, de ne pas hésiter à agir et, bon, s'il y a lieu à consulter soit moi ou les procureurs qui agissent là dans ce qui pourraient les aider là-dedans, parce que le taux de succès à date, le nous, il est de 100%. À chaque fois qu'on est intervenu, on a découvert, M. Lagacé, qui était derrière ces faux profils. Et un des dossiers, d'abord, Canplay, qu'on a réglé hors cours avec un immense taux de succès, parce que l'auteur a payé, hein, il y a une entente confidentielle, on ne peut pas révéler le nom puis de qui il faisait dans la vie, mais je peux vous dire que 100% des honoraires d'avocat ont été remboursés et 100% des honoraires de l'expert. Et en parallèle, là, on a un autre dossier, celui de Rivière-Rouge, qui est sur le point de se régler hors cours, donc qui est très intéressant de ce côté-là. Et on a celui de la ville de Mercier, là, qui est en cours parce que il y a dont l'instance se poursuit parce qu'il y a une poursuite là, en diffamation qui est pendante là, devant la Cour supérieure.
Généralement, là, l'issue de ces causes-là, ça implique quel type de personnes? Est-ce que ce sont des adversaires politiques ou c'est juste des citoyens qui n'ont rien d'autre à faire?
Non, je peux vous dire là, un bel exemple. C'est par exemple à la ville de Mercier, on a découvert que c'était un adversaire politique, une candidate, entre autres, une adversaire de la mairesse, et qui, elle, là, utilisait effectivement un faux profil. L'insulte à l'injure, M. Lagacé, c'est que le faux profil utilisé, imaginez-vous que c'était le nom d'une sœur décédée de la mairesse actuelle, Mme Bichot. Alors, imaginez-vous le choc psychologique, là, vous recevez non seulement c'est diffamatoire, mais en plus, vous voyez là, que c'est le nom de votre sœur décédée qui vous envoie toutes ces... propos diffamatoires, là.
Les personnes, Maître Soucy, qui font ça, qui utilisent des faux comptes pour diffamer et qui se font pogner, ces personnes-là, elles doivent payer un montant à un moment donné, que ce soit hors cours ou à la fin d'un processus judiciaire. On parle de combien d'argent d'habitude?
Bien, là, c'est toute une évaluation qui est du cas par cas. Je suis obligé de vous dire ça, là, parce que dans un recours en diffamation, d'abord, vous avez le volet compensatoire, c'est-à-dire quel est le dommage concret qui a été causé à la personne. Et ce qu'on doit retenir aussi, qui est intéressant, c'est que c'est un des seuls cas au Québec où vous pouvez obtenir des dommages punitifs en vertu de l'article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne. Une forme de punition au surplus qui peut être accordée à la personne qui est victime de diffamation. Parce qu'en droit civil, on doit savoir là qu'au Québec, vous avez droit à des dommages compensatoires pour le préjudice subi réellement.
Mais juste, juste pour être clair, Maître Soucy, là, pour que les gens nous comprennent, là, on parle-tu de 500 $ ou on parle de 25 000 $
Oh, ça peut aller, je peux vous dire, moi, que ça peut aller, dépendamment de l'atteinte puis du préjudice, mais ça pourrait aller à 100 000 $ ça peut être 50 000 $
Donc, c'est un jeu, c'est un jeu dangereux. C'est un jeu dangereux pour les trolls.
Absolument, parce que le message qu'on peut vous dire, qu'on peut lancer à tous au Québec aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus se cacher derrière un écran et se créer de faux profils, parce que l'objectif de ces gens-là, dans le fond, c'était de dire, ben, je me crée un faux profil, personne va me découvrir et je peux dire n'importe quoi, par exemple, sur Patrick Lagacé, c'est un fraudeur, c'est un voleur. Mais maintenant, on voit que le party est terminé.
Ben, Maître Soucy, c'est fascinant ce que vous faites. Bravo, je pense que les trolls ont besoin de se faire ébranler dans leur certitude de jamais se faire pogner. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui.
Merci, M. Lagacé. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée.
Salut, c'était l'avocat Rino Soucy, spécialisé en droit municipal associé au cabinet DHC Avocat. Ben, vous l'avez entendu, il traque les cybertrolls et ces gens-là qui sont certains de jamais se faire pogner pourraient avoir une surprise qui pourrait leur coûter des milliers de dollars. Salut, Luc.
Salut, Patrick.
OK, le monsieur s'appelle Balarama Holness. C'est un ancien joueur des Alouettes. Se présente à la mairie de Montréal comme chef de Mouvement Montréal. Et lui, il voudrait un statut de ville bilingue pour Montréal. Il a même évoqué l'idée d'avoir un référendum là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de cette idée-là?
Quel gaspillage! Quel gaspillage d'une occasion unique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Valérie Plante, mais qui n'aiment pas Coderre. Il y avait la place pour une troisième voie.
Un peu comme Mélanie Joly il y a quelques années.
Oui, c'est ça. Il y avait la place pour une troisième voie. Et lui, il l'a torpillé, carrément torpillé. C'est rien de moins qu'un complotiste, Balarama Holness. Il y a une pensée complotiste.
Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Ben, il aimait ses idées comme s'il n'y avait pas eu de discussion avant lui, comme s'il n'y avait pas d'évidence historique ou scientifique. Bon, évidemment, en science, les complotistes, c'est les évidences scientifique. En sociologie, en politique, c'est des évidences historiques. T'sais, il faut que tu prennes note de ce que l'histoire, le parcours historique qui a été fait avant d'arriver à la loi 101, puis depuis la loi 101, comment la loi 101 est née, comment elle a, pourquoi elle est là, etc. Ça, c'est un corps d'études, c'est un corpus de textes, d'études, de faits que tu dois prendre en considération.
Et toi, tu penses que M. Holness, il fait abstraction de ça?
Il ne comprend rien. C'est comme s'il n'avait pas envie de lire. C'est pas sa première déclaration du même ordre. C'est pour ça que je me permets de le dire. Par exemple, il a aussi fait des déclarations sur la partition de Montréal en cas de référendum. Donc, Montréal aurait le droit si le Québec a le droit à un référendum pour se séparer du Canada, Montréal a le droit à un référendum pour se séparer du Québec.
C'est une vieille lubie fédéraliste.
Mais c'est pas juste...
Ultra-fédéraliste.
Oui, c'est ça, parce que Montréal a quand même été fondé par... Il y a une histoire à la fondation de Montréal, tu sais, Champlain, Jeanne-Mance, etc., la colonisation française, puis après ça, la guerre avec l'Angleterre, etc. Tout ça, ça laisse des marques, là. Tu peux pas juste dire, ben tout ça, je le revire de bord. Il était aussi allé encore plus loin en parlant pas non seulement de partition, mais même si on restait dans le Canada ou s'il n'y avait pas de référendum, le Québec, Montréal ne devrait payer des taxes et des impôts qu'à Montréal. Donc, il ne devrait pas y avoir d'impôts payés à Québec. L'argent devrait rester à Montréal, l'argent qui est généré à Montréal, parce que c'est 50% du PIB, si tu regardes la ville.
Donc, après ça, l'argent généré dans Rosemont devrait rester dans Rosemont.
Ben, quasiment. Mais c'est parce que tu comprends bien que quand il y a une pandémie, est-ce que Montréal va avoir les fonds nécessaires pour faire face à la situation toute seule? La question est posée. Donc, il comprend rien. Il se permet de prendre la parole sans avoir lu, sans avoir calculé. Et là, il faut que je envoie une flèche à Marc-Antoine Desjardins parce que lui aussi, il a fini par embarquer là-dedans. C'est-à-dire que...
Luc, on va préciser que M. Desjardins était un autre candidat à mairie et que Messieurs Holness et Desjardins ont fusionné leur mouvement.
Oui, c'est ça. Et puis Marc-Antoine Desjardins, tout au contraire, lui se promettait de faire de Montréal une perle de la francophonie, etc. Et là, il dit, ben finalement, il faut l'avoir, la discussion. Pardon? Comment ça, faut l'avoir, la discussion? La loi 101, c'est un compromis historique, là. C'est sans doute ce qui a évité la séparation du Québec. Avant la loi 101, il y avait une ségrégation sociale extraordinaire au Québec entre les francophones, les anglophones, puis aussi tous les autres groupes communautaires ou ethniques, linguistiques ou ethniques, je veux dire. Et les francophones étaient au bas de l'échelle parce que peu d'accès au marché du travail, confinés dans des emplois peu payants, manœuvres, etc., devant s'exprimer en anglais lorsqu'ils parlaient à leur boss. La loi 101... À ce moment-là, le terreau pour l'indépendance est très, 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 très riche. Là. Les gens en ont marre, ils veulent s'en sortir, il y a un esprit révolutionnaire. Et on dépose la loi 101 qui vient corriger la situation. Et cette correction-là fait qu'ils ont accès à la richesse. Et l'accès à la richesse leur permet finalement de dire, ben, écoute, le Canada, c'est pas si pire. Puis aussi la question de l'immigration. Ça, c'est un deuxième gros bloc que la loi 101 a changé dans notre sociologie. C'est que parce qu'on a maintenant dorénavant un développement démographique faible, c'est les nouveaux arrivants qui déterminent un peu l'avenir en termes démographiques. Et si les nouveaux immigrants choisissent l'anglais comme c'était le cas avant la loi 101, ben il y a une disparition progressive du français. Et d'ailleurs, la loi 101 a permis de freiner ça pendant 20 ans, mais... c'est en train de repartir parce que, pour toutes sortes de raisons, l'anglais reste extrêmement attrayant, notamment à cause de l'Internet. Et là, on est passé sous le seuil des 80% qui parlent le français à la maison. 49% à Montréal parlent une autre langue que le français à la maison. Fait que là, t'as un oiseau rare, Balarama Lens, qui dit, ben, tout ça, j'en prends pas compte. J'en tiens pas compte, moi. Moi, ce que je veux, c'est, en tant que citoyen, là, vous, là, qu'est-ce que vous voulez? Voulez-vous parler français ou voulez-vous parler anglais? C'est une pensée complotiste. Puis, en termes politiques, là, c'est une catastrophe annoncée. Parce que les gens qui auraient pu voter pour ça sont dans les villes défusionnées. Ils votent pas aux élections municipales. Tu sais, les Hampstead, Westmount, Côte-Saint-Luc et compagnie sont sortis de la ville de Montréal, notamment pour défendre leur municipalité parce que les minorités anglophones, leur stratégie au Québec, c'est de défendre très, très fort leurs institutions, leurs commissions scolaires, les villes dans lesquelles ils sont prédominants, etc. Ouais. Alors, ils ont quitté la ville de Montréal. Donc, eux auraient peut-être voté massivement. C'est ce qu'on appelle les angry phones, des gens qui sont fâchés, des anglophones fâchés. Mais il reste peut-être, tu sais, dans NDG, t'as des gens qui penseraient un peu comme ça. T'as aussi, en particulier dans Loyola, il y en a peut-être quelques-uns. Peut-être tu peux aller chercher un district ou deux.
OK, mais regarde, Monsieur Holness, là, faut reconnaître une affaire. On n'a pas parlé de lui depuis qu'il a annoncé sa candidature, comme dans les derniers jours depuis qu'il a annoncé cette idée-là, OK? Un candidat comme ça est pas un peu obligé de faire des déclarations, disons, un peu spectaculaires pour se faire remarquer?
Oui, certainement. Il y a mille autres façons de faire des déclarations. Par exemple, il voulait parler de la langue de communication dans les services de la ville de Montréal, il aurait pu le faire. Il y a beaucoup de gens que j'ai croisés, moi, qui disaient « Écoute, c'est pas que je fais exprès, c'est que je comprends pas le français ». Puis, quand j'appelle à la ville pour savoir si je peux avoir mon permis pour l'agrandissement de ma terrasse, je comprends rien. Alors, là où je comprends une fois sur deux. Bon, ou alors, lorsque il y a des règlements d'urgence qui sont émis sur les interdictions de sortir, par exemple, en temps de COVID, j'aimerais mieux comprendre. OK, on est dans du spécifique, on est dans du municipal. Alors là, tu aurais pu dire, mais moi, je veux qu'on revoie les services aux anglophones. Je trouve que, bien que la loi 101 ait eu un rôle historique nécessaire et qu'on doive la poursuivre, etc., etc., il y a des immigrants récemment arrivés qui, finalement, ratent tout le temps le bateau parce qu'on leur parle pas. Alors, il faudrait qu'il y ait un délai pendant lequel on leur parle, on accepte de leur parler en anglais, puis que ça s'associe avec de la formation, des cours, etc., mais qu'au moins, on fasse un peu preuve de souplesse. Ça se dit, ces choses-là.
Luc, penses-tu que cette idée-là de séparer Montréal du Québec, là, que ce soit théorique ou pratique, là, penses-tu que c'est une idée qui est répandue chez les anglophones de Montréal ou c'est une sorte de lubie d'activistes comme ça?
C'est une lubie. C'est une lubie qui était liée au référendum. C'est-à-dire que à l'époque du référendum, ça prenait une certaine importance. T'as des communautés là du côté de Sainte-Anne-de-Bellevue, par exemple, ouais, où la part de l'anglais est importante, sont à quelques
avec encablures. Le fameux Howard Galganov.
Oui, c'est ça. Ils sont juste à côté de l'Ontario, par ailleurs. Mais, OK, c'était lié à un climat politique particulier. De ramener ce climat politique-là aujourd'hui, en pleine paix linguistique, entre guillemets, là, parce que y a quand même, il va y avoir beaucoup de brasse-camarades avec la réforme de la loi 101, la loi 96. Mais ramener ce climat-là, ça démontre une pensée dénuée de sens. Dénuée de sens. Et moi, je lui souhaite vraiment, vraiment, je souhaite aux deux d'être ignoré par les électeurs et renvoyé à la poubelle de l'histoire. Mais j'espère que c'est ce qui va se passer. Je crains parfois qu'il reste quand même quelques anglophones et aussi des gens qui sont pas nécessairement des anglophones, qui ont pas vécu tout ça, sont arrivés eux après tout ça, puis qui se disent ben oui c'est vrai, coudonc, pourquoi est-ce que on n'aurait pas le droit à de l'affichage anglophone sans comprendre le contexte historique. Ça existe peut-être ces électeurs là. J'espère qu'ils sont peu nombreux là. On le verra à l'élection.
Merci Luc, on s'en reparle demain.
À demain.
Patrick Lagacé, en accéléré.
On parle de plus en plus de santé mentale, de déstigmatiser les troubles de santé mentale, et ils sont nombreux. Et les personnes qui en souffrent sont nombreuses. On a juste à penser à la semaine passée à Carey Price. Ben, la fondation Douglas, de l'hôpital Douglas, vient de lancer le mouvement Bâtissons l'espoir pour promouvoir la recherche en santé mentale. On en parle avec un de ses porte-parole, l'humoriste François Massicotte, lui-même atteint d'un trouble bipolaire. Salut François!
Salut Patrick, ça va bien?
Oui, toi aussi j'espère. Dis-moi, c'est quoi le lien avec entre François Massicotte et le Douglas?
Ben, c'est comme tu viens de le dire, je suis bipolaire depuis 20 ans. Il cherchait un porte-parole, donc évidemment, qui vit avec la maladie mentale, mais qui est à l'aise d'en parler. Et moi, ça fait 20 ans que j'en parle. Alors, ils m'ont simplement demandé de m'impliquer. Puis moi, j'ai accepté parce que j'ai été impliqué avec d'autres associations comme Revive aussi dans le passé. Mais ce que je trouvais intéressant avec la Fondation Douglas, c'est que c'est la recherche et que en plus d'en parler, comme on fait depuis longtemps, comme je fais depuis 20 ans, enfin, on peut agir et vraiment faire un geste concret pour aider ceux qui souffrent de problèmes de santé mentale en faisant un don cette semaine dans toutes les couches tard qui participent aux extraordinaires. Donc, à la caisse, toute la semaine du 12 au 18 octobre, on peut faire un don pour financer la recherche qui est super importante en santé mentale. Moi, je suis bipolaire, mais s'il n'y avait pas eu de recherche, j'aurais pas de médication. Je serais en 1950, on était à l'asile avec des électrochocs. Moi, c'est ce que ma grand-mère a vécu, étant bipolaire dans les années 50. Mon père, qui a vu ça, lui, aussi bipolaire, n'a jamais rien voulu savoir de la médication ou des médecins ou de la médecine parce qu'il a été choqué par ça, évidemment, traumatisé par ça. Puis moi, de l'autre génération, j'ai mon diagnostic, puis je fais, ben non, moi, je vais en parler, puis grâce à l'éducation, tout va très bien. Je parle un peu vite en entrevue, c'est tout.
Non, mais François, c'est intéressant ce que tu dis là, parce qu'on parle souvent de l'accès aux soins de santé mentale, mais on parle moins de recherche. Mais écoute, l'autre truc que je trouve intéressant dans ton histoire, c'est, tu l'as souligné, toi, ça fait 20 ans que t'en parles de ton trouble bipolaire.
Oui.
Je t'en parlais quand c'était pas très populaire d'en parler. Dis-moi, qu'est-ce qui a changé dans la société depuis 20 ans?
Ben, ça, je trouve ça extraordinaire de voir qu'il y en a de plus en plus qui en parlent. Par exemple, d'autres artistes qui sont venus pour en parler, comme des Vardin Etienne, puis des Péonetta, Michel Courtemanche, etc., plein de monde. Mais aussi des grandes campagnes comme celle de Belle, que je trouve extraordinaire parce que, bon, c'est parlons-en, parlons-en pour la cause. Puis les excellentes publicités qui passent aussi, qui expliquent les stigmatismes, comment c'est épouvantable, de juste de dire à quelqu'un de dépressif, bon, ouais, ben, lui, il lâche, là, mais c'est comme dire à quelqu'un qui est en chaise roulante, bon, il lève tout, il marche. Ça n'a pas de sens. T'sais. Mais parce que c'est invisible, on a de la misère à le comprendre. Puis de plus en plus, les gens le comprennent. Les gens, c'est d'éducation, les gens apprennent qu'est-ce que c'est. Et ce qui fait que les gens ont moins peur d'en parler, ont moins peur de le dire, puis d'aller chercher de l'aide. Puis tout ça fait en sorte que ça aide énormément de gens. Il faut continuer. Mais justement, c'est ce que j'aime de voir, c'est qu'on en parle de plus en plus. Mais là, on peut enfin agir aussi.
On peut agir, mais est-ce que, quand t'as fait ton, on va dire, un coming out pour les besoins de la cause, François, là, il y a 20 ans, est-ce que ça a été bien reçu ou t'as subi des revers, t'as souffert de ça? Il y a des gens qui sont peut-être moqués.
J'ai eu aucun, c'est ça qui est fascinant, aucun revers. Au contraire, c'est comme si j'expliquais tous les comportements que j'ai eus avant. Si ça enlevait tout le brouillard. Tu sais, moi, je pouvais être vraiment fendant ou des fois vraiment à côté down, vraiment évasif. Je parlais pas à personne, je voulais pas voir personne. Je m'étais dans, j'étais dans mon coin, j'avais peur de parler à tout le monde. Tu sais, ça explique aussi des comportements que tu peux avoir. Fait que le fait d'en parler, il y a rien de négatif là-dedans. Moi, j'ai rien vu de négatif. Ce qui est comique, c'est que le fait que je sois humoriste, ça m'a peut-être aidé, parce que tous ceux à qui j'en parlais, ils me disaient, ben oui, mais c'est normal, t'es un artiste. Tous les artistes, ils avaient tous des hauts et des hauts. Comme ça, ça va de soi, tu sais. Fait que j'ai jamais senti que j'allais perdre un travail ou un job, ou que ça allait nuire à quoi que ce soit que je faisais. Pas du tout. Ou si ça m'a nuit avant. Ça m'a nuit, la bipolarité m'a nuit avant et beaucoup. Parce que, tu sais, quand t'es humoriste et t'es artiste, tu veux que les gens, t'as un job de séduction à faire, tu veux que les gens viennent te voir. Donc, faut que tu sois sympathique. Et quand t'es bipolaire, quand t'es dans un hop, t'es meilleur que tout le monde. T'es fan, moi, j'étais fan comme ça se peut pas. Tous les autres valent rien. T'sais, et quand t'es sur un dôme, tu peux pas parler à personne, tu te sauves, tu te caches. Pour faire de la promotion, là, ça va pas bien.
Qu'est-ce que tu dirais, François Massicotte, à quelqu'un qui est down et qui se cache et qui veut pas faire face à la réalité?
Écoute, c'est pas facile de trouver une phrase magique, là. Qu'est-ce que je dirais? C'est d'essayer de pas avoir peur, de foncer, d'en sortir, parce que ça peut juste aller mieux. Ça peut juste aller mieux d'aller chercher de l'aide, de dire c'est la phrase « j'ai besoin d'aide », elle est difficile à dire, mais une fois que tu l'as dit une fois à quelqu'un, c'est pas vrai que la personne va entendre ça, puis elle va faire comme « ah ben bonne chance, t'as qu'à s'en aller ». Non. En général, les gens vont rester et dire « oui, ok, qu'est-ce que je peux faire pour toi, qu'est-ce qu'on peut faire, on va trouver une solution, on va appeler quelqu'un, on va trouver de l'aide ». Il y a des solutions plein d'Internet, où il y a des services maintenant. On va voir un médecin, on va trouver de l'aide, un psychiatre à quelque part. Je sais que c'est pas facile rendu là de trouver le... au Québec un psychiatre. Là, on a plus d'humoristes que de psychiatres au Québec. c'est ça, je dirais. Dis-le, va voir, demande l'aide. Tu sais. Ouais.
Merci beaucoup, François. Belle implication avec le mouvement Bâtissons l'espoir 2021 de Douglas. Merci de nous avoir parlé aujourd'hui.
Dans toutes les couches tard cette semaine. Allez-y, let's go, faites un don. Merci beaucoup, Patrick.
D'accord, salut. François Massicotte, ben oui, c'est ça, il l'a dit. Dans les couches tard du 12 d'aujourd'hui au 19 octobre, les gens sont invités à faire un don à la caisse. Il y aura des publicités aussi sur l'importance de la recherche. Puis, ben hier, à Montréal, le match des Alouettes a été dédié à la recherche en santé mentale.
Patrick Lagacé, en accéléré.
C'est 23.